Le Forum des auditeurs vous est présenté par Horte France.
Nos auditeurs ont la parole. Du lundi au jeudi, retrouvez le Forum Radio Shalom de 18h30 à 19h. Un seul numéro, le 01 43 36 04 06.
01 43 36 04 06.
Venez donner votre avis sur l'actualité et réagir en direct.
On va parler à présent de nos fêtes et de nos traditions. On va parler des fêtes de Pessah. Et j'ai demandé au Rav David Abendanan d'être en ligne avec nous. Bonsoir David.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Rav David. Et vous êtes avec nous ce soir au 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06 pour répondre aux questions que se posent les gens par rapport à ces fêtes. Des fois on en fait trop pour Pessah. On se dit mais non, c'est bête. Ou l'inverse, on comprend pas que en fait ça c'est vraiment à ne pas faire. Par exemple, je sais pas, on peut parler de différentes problématiques. Le pain, enfin, on va voir tout ça. Et les auditeurs nous appellent au 01 43 36 04 06. C'est Chaim est en ligne avec nous. Chaim, bonsoir.
Bonsoir Chaim.
Alors, et oui, je m'appelle Chaim. Ah, sympa. Ça veut dire, c'est vrai.
Voilà, alors, effectivement, moi, je suis d'origine tunisienne. Et il y a une tradition.
Jusque-là, c'est pas très grave.
Jusque-là, ça, c'est pas interdit. C'est bon. Alors.
Voilà, il y a une tradition tenace qui fragilise les derniers instants de Pessah.
Oui.
Et on se retrouve avec les doigts bien gras, l'huile, la rissa, le pain et surtout le pain italien pour ce fameux sandwich. Mais bon, on retrouve la même notion similaire. On retrouve par exemple le couscous au beurre ou les moufletas. Alors, moi je me pose une question toute simple. Est-ce que le fait de congédier la matzah, un peu comme si on s'en débarrassait, elle est vite, on monte dans le train et elle s'en va, pour laisser place au pain, on ne doit pas faire un petit effort pour essayer de lui donner un petit égard, donner un peu plus d'égard à la matzah, histoire de, ça va faire plaisir au Rav Abendanan, histoire du Yetzirah dans le pain, de la matzah avec le côté Yetzirah Tov où on éteint la gahava et compagnie. Et moi, il me traverse le cerveau une petite idée, est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle avec la fin du 9 av, où on attend quand même le lendemain midi pour commencer à remanger de la viande. Alors, est-ce qu'on doit faire la même chose pour la matzah? Ou bien on laisse cette tradition qui vient un peu ternir la fin de ses efforts et de ses dépenses somptueuses?
Alors, j'entends.
Alors, attendez, David Abendanan, je crois avoir compris la question. C'est est-ce qu'on pourrait pas essayer de. Plutôt que de courir après le pain? Hein, c'est un peu ça, Chaim, ce que vous voulez dire.
Exactement.
Voilà, parce que c'est un peu, ça montre un peu que vraiment. Alors, par exemple, c'est comme si on court après la fin de Shabbat, comme si on se jette sur le repas après Kippour. J'ai compris. Alors, Rav David, qu'est-ce que vous répondez à notre auditeur?
D'abord, je ne peux que féliciter l'intention, mais le parallèle qui a été fait avec le 9 av n'est pas pertinent, mais ça va même beaucoup plus loin. Il faut savoir que les traditions en général, souvent, eh bien, elles se basent sur des bases halakhiques, et celle-ci se base et fait aussi sur une base halakhique, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Tout d'abord, puisque vous avez parlé du 9 av, le 9 av, si le deuil se prolonge jusqu'au lendemain, c'est parce que le Beth Amikdash a continué à brûler jusqu'au lendemain, et il y a dans la Gemara même des Amoraïm qui disent « si moi j'étais présent, je n'aurais pas institué le jour de deuil, le 9, mais le 10 av ». Donc c'est un cas très particulier, et on ne rajoute pas un instant sur le deuil sans raison, c'est pas pour se séparer, c'est pas pour dire le deuil, on va pas le lâcher. Maintenant, pour revenir à notre situation de la matzah, vous savez qu'il y a dans la Torah une interdiction de baltosif. L'autosif. La Torah nous interdit de rajouter des mitzvot, de rajouter sur ce qui a été demandé. Si bien que dès lors que la fête de Sukkot se termine, alors nous, en Chutz La'aretz, en dehors des Eretz Israël, on n'est pas conscient de ça parce que le dernier jour, le premier jour de Shmini Atzeret, on le fait quand même dans la Sukkah à cause de l'histoire à chaque fois de Sfeka de Yoma, des jours qu'on double, mais en Eretz Israël, à ce moment-là, il est formellement interdit de continuer à manger dans la Sukkah parce que ça montrerait, ça pourrait laisser croire que si j'ai mangé dans la Sukkah pendant les jours de Sukkot, les 7 jours de Sukkot, c'était pas parce que c'était obligatoire, mais c'était parce que c'est un plaisir, c'est agréable, je voulais manger dans une cabane et puis j'en ai tiré profit. Par conséquent, dès lors que Sukkot se termine, eh bien on arrête de manger dans la Sukkah. De la même façon, dès lors que Pessah se termine, on montre bien que si on a consommé de la matzah jusque-là, c'est pas parce que nous admirons et nous apprécions la qualité gustative et culinaire des préparations à base de matza, que je ne veux pas remettre en cause par là, mais pour bien montrer que si on l'a fait, c'est parce que Hakadosh Baruch Hu nous a donné l'ordre. Il est rapporté que certains acharonim, donc certains rabbanim contemporains, faisaient même la havdala sur de la bière, pour démontrer que dès la sortie, dès que j'ai la possibilité de consommer du hametz, j'en consomme. Et si je me suis privé jusqu'à maintenant, c'était pas parce que j'aime cette situation, mais c'est parce que Hakadosh Baruch Hu me l'a ordonné. Donc pour répondre à votre question, non, il n'y a pas lieu de faire continuer Pessah au-delà de la limite. Bien au contraire, une fois que la limite est terminée, il faut montrer que ça y est, on peut remanger du hametz, et ça montre de là que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'était par but de respect de la loi. Cela dit, bien entendu, en respectant les règles. Les règles, c'est que jusqu'à la fin de la sortie de Pessah, il est formellement interdit de posséder du hametz. Même si on a une motivation qui est la motivation de la Seouda, de la sortie de Pessah, eh bien on ne peut pas procurer du hametz plus tôt.
Alors voilà, parce que faire une avdala sur de la bière, monsieur le rabbin, excusez-moi, il faut en avoir de la bière pour pouvoir le faire.
Alors il y a des possibilités, vous pouvez l'acheter dans une petite supérette et vous fournir en bière juste après la fête, mais avec modération bien entendu.
Chaim, je suis d'ailleurs surpris quand j'ai entendu le début de votre question, je me suis dit voilà, il va demander... Qu'est-ce qui se passe avec les Tunisiens qui font entrer le pain avant la fête en disant comme ça je serai prêt ? C'était trop facile pour vous cette question, vous avez dit non. Hein ? C'est ça ?
Alors, j'ai également cru qu'on s'orientait vers là, Bernard, pour tout vous dire.
Qu'on pourrait ?
Ah, ça va alors. Ça va, je suis rassuré. Mais bon, c'est plus tant que ça respecté avec autant de ferveur, du moins je l'espère. Mais quel est ce laps de temps qu'il faut respecter à l'issue de la fête, alors ?
Ce laps de temps, alors non. Le laps de temps duquel vous avez probablement entendu parler, c'est le laps de temps pendant lequel le Rav, auprès duquel vous avez procédé à la vente du Hametz, va devoir
racheter
son Hametz. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez entendu un laps de temps. Mais si ce n'est le fait de racheter le Hametz, de laisser le temps au Rav de rentrer chez lui et de racheter le Hametz, si ce n'est cet impératif économique, ça veut dire que, il faut vous expliquer comme ça, quelqu'un qui descendrait une minute après la sortie de la fête pour acheter du hametz dans une épicerie qui en vendrait, il n'y aurait aucune interdiction. Il n'y a pas de laps de temps à respecter là-dessus.
Ah, mais c'est aussi une belle idée, Baltosif, parce que dans la Torah, c'est écrit « Tu ne bougeras ni à gauche ni à droite ». C'est vraiment un montre que si Dieu a dit 7 jours, ce n'est pas 7 et demi. Bah, c'est intéressant, mais après, sur d'autres fêtes, on fait autrement. Chaim, merci pour votre appel.
Merci. Pessah kasher et sa mère encore.
Moadim les simcha, de bonnes fêtes de Pessah.
De bonnes fêtes et un bon Shabbat.
Toltou.
Et un bon Shabbat avec des matzot qui nous font mal au ventre. Maggie est venue nous rejoindre dans les studios. Bonsoir Maggie.
Bonsoir.
Alors Maggie, vous animez en fait une émission de jeudi après-midi qui s'appelle C'était pas prévu au programme.
Exactement.
Et alors comme c'était pas prévu, non mais c'est vrai, l'émission elle s'appelle comme ça. Mais alors, comme c'était pas prévu au programme et que vous êtes toujours dans les studios, vous êtes dit, tiens, moi je veux poser une question.
Exactement. Non, j'en ai deux même.
Ah oui, allez.
Oui, j'en ai deux. Alors la première, je voudrais savoir, voilà, j'ai ma femme de ménage qui est venue cette semaine deux ou trois fois et elle est venue avec son sandwich. Je savais pas trop quoi faire en fait. Est-ce que
je voulais dire, non, tu manges pas chez moi. Il y avait des gens qui font ça, qui disent tu manges pas chez moi.
Ouais,
sois gentil, bon, prends pas mal. Mais
ouais, voilà, mais comme je ne savais pas quoi lui dire, j'aimerais bien savoir si c'est autorisé ou pas.
Allez, un, deux.
Ma deuxième question, je voulais également savoir si il est autorisé pendant Pessah et notamment pendant les Sédarim d'avoir à table des personnes non juives.
Et pourquoi ça serait interdit ?
Je ne sais pas. Je pose la question, c'est que j'ai entendu cette année plusieurs amis m'avoir dit avoir invité des gens à table, des Asiatiques. Enfin, c'était sympa, hein. Apparemment, ils ont passé un super cédère, mais j'ai eu un petit doute et il me semblait que mon père m'a toujours dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir des personnes non juives et surtout à Pessah.
Alors, c'est Rav Abendanon qui répond.
Rav David. Concernant la première question, donc je comprends le réflexe primaire de la difficulté de voir quelqu'un rentrer un sandwich dans une maison qui est cachée à l'épaisseur et qui a été nettoyée et astiquée pendant des heures à la recherche de la moindre miette. Toutefois, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de gravité. Alors, je vais vous expliquer dans quel sens je veux dire ça. Tant que le hametz, le sandwich qui est rentré, là, vous ne vous appartient pas. Il appartient à votre femme de ménage qui n'est pas juive. Par conséquent, vous ne possédez pas du hametz. Au même titre que du hametz qui pourrait être dans une armoire vendue à un non-juif et qui se trouverait chez vous. Le seul problème, c'est que vous êtes confronté à ce hametz. Alors, pour cette raison, vous pouvez lui dire, étant donné que pendant cette fête, j'ai pas le droit d'être confronté à du pain, je vous demande si vous voulez bien le cacher ou le mettre dans un sac, voilà, de façon à ce qu'il traîne pas sur la table. Mais normalement, il n'est pas censé traîner sur la table. Deuxième petit problème qui pouvait arriver, c'est si jamais il y a des miettes. Et là, il faut comprendre que pendant Pessah, les miettes ne s'annulent pas. Ça veut dire que même une quantité infime, infinitésimale de Hametz peut rendre non cachère un plat de plusieurs kilos.
Ah ouais.
Donc pour cette raison-là, pendant Pessah, il faudrait faire extrêmement attention lorsqu'elle consomme ces miettes, ce Hametz, qu'aucune miette ne tombe dans le plat, et lui demander de redoubler de vigilance, par exemple, qu'elle mange... je sais pas moi, sur la terrasse ou dans un endroit où il n'y a aucun risque de... Mais sur le principe, le fait que du pain soit rentré chez vous alors qu'il ne vous appartient pas, en soi, ce n'est pas dramatique puisqu'il ne vous appartient pas et qu'il est possible même d'en posséder dans la mesure où il y aurait du Hametz qui serait vendu. Pour répondre à la deuxième question de la possibilité d'inviter quelqu'un qui n'est pas juif à participer au Seder. Alors, il y a un problème pendant Yom Tov de cuisson. On a le droit pendant Yom Tov de cuisiner, mais cette autorisation de cuisiner, elle est très réduite. C'est pour ça que dans ce genre de situation, il vaut mieux appeler un rabbin au cas par cas. Il y a des situations, il y a des gens qui sont en conversion, on est obligé de les inviter, ou il y a des situations où il y a des gens qui ont de la famille qui est non juive. Donc dans toutes ces situations, il faut appeler un rabbin, il y a les réponses qui seront données au cas par cas.
Ok, ça marche. Merci Maggie. Et Greg est en ligne avec nous. Greg, bonsoir à vous.
Bonsoir Bernard, bonsoir Rav.
Alors Greg, bonsoir. Une question à un spécialiste, tous les mardis soirs sur Radio Shalom.
Oui, effectivement. Ah. Effectivement. Ah. Alors, j'ai une question qui me vient à l'esprit, et d'ailleurs qui me concerne tout à fait personnellement. Moi, j'ai énormément de mal à manger de la galette. Alors, je ne mange pas de pain pendant Pessah, évidemment, mais j'ai énormément de mal à manger la galette, parce que ça me fait terriblement mal à l'estomac, et je préfère ne pas en manger du tout, plutôt que de souffrir. Alors vous allez me répondre que la santé prime avant tout dans la religion, et je suis parfaitement d'accord, mais moi je voulais savoir si le fait de manger de la galette était une obligation à la RIC, ou c'est simplement une coutume pendant les fêtes de Pessah, et si jamais on n'en mange pas parce que ça ne nous fait pas, entre guillemets, du bien, on peut être dispensé d'en manger.
Alors là c'est beau. J'ai même presque l'impression qu'il y a deux questions en une. Mais
c'est une excellente question. Alors, Greg, nous allons faire, de la même façon que nous avons fait lors de la première question qui m'a été posée, le parallèle avec la fête de Soukhot. Ouais. On va distinguer deux moments dans lesquels de consommation de matzah, de galette. Il y a la consommation de matzah, de galette, le soir du Seder, donc les deux soirs en France. Cette consommation-là est obligatoire. Ça veut dire que là, alachiquement, même si je sais que j'ai un peu de mal à la digérer, eh bien les 30 grammes de matzah des soirs du Seder, ceux-là sont obligatoires parce qu'il y a une mitzvah, un commandement positif de la Torah de consommer. Alors là, dans cette situation-là, vous me dites que vous avez du mal à la digérer, il y a des gens qui ne peuvent pas tout simplement digérer parce qu'ils ont des problèmes, des maladies de cœliaque ou autre. Dans ces situations-là, eh bien, là, il faudra trouver une solution où quelqu'un ne va pas se rendre malade pour la consommation de la matzah. On trouvera une solution si c'est des problèmes de santé réels. D'accord. Maintenant, si c'est juste un inconfort lié à la consommation de la matzah, eh bien on essaiera de se forcer, de trouver un moyen pour faire passer ces 30 grammes lors des deux sedarim. Maintenant, le reste est à l'image de Soukhot, durant lequel, à ces moments-là, il est obligatoire de manger dans la soukha, les deux premiers soirs de Soukhot. Le reste de Pessah, il n'y a pas d'obligation à proprement parler à consommer de la matzah. C'est si tu dois consommer du pain, eh bien ne consomme pas de pain, consomme du pain azim à la place. Maintenant, quelqu'un qui ne mange pas de pain ou qui ne veut pas manger de pain ou qui ne supporte pas la galette, il n'y a pas d'obligation. Si ce n'est que pendant Chol HaMoed, c'est bien de faire motzi. Mais on est plus dans le « c'est bien », ça veut dire « c'est recommandé », on n'est pas dans l'obligation. Donc quelqu'un qui ferait un bon repas en l'honneur de Chol HaMoed, sans galette, sans matzah, parce qu'il a du mal à la digérer, il n'y a pas de problème à la rik là-dessus. Donc vous avez bien compris, je résume ce que je viens de dire. Les soirs de Pessah, les deux sedarim, la consommation des 30 grammes de matzah est obligatoire. Le reste du temps, ce n'est pas une consommation obligatoire, c'est juste pour pallier à l'absence de pain.
Okay.
C'est pour pallier à la consommation de pain. On remplace cette consommation par de la matzah sans consommation obligatoire.
Très bien. Bah, écoutez, vous avez été parfaitement clair. Je vous remercie, Rav.
Alors, mais ce qui est embêtant, Greg, juste deux petites minutes avec nous.
Oui, je vous en prie.
Ce qui est embêtant, c'est que moi, ce que je préfère au CEDER, c'est le sandwich. Et ça, c'est... Oui. Mais si c'est vrai qu'au bout d'un moment... Moi, là, maintenant, je commence à avoir mal au ventre. Je ne vais pas parler de mes problèmes personnels. Mais... Donc, vous dites, vous, pendant Chol HaMoed, c'est bien parce que ça respecte la fête, mais il n'y a plus d'obligation.
C'est exactement ça.
D'accord. Eh bien, écoutez, super. Greg, vous avez envie de poser une autre question ?
Non, écoutez, j'ai eu cette réponse. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur les fêtes de Pessard, et je trouve que, hormis la beauté de la fête, hormis la signification de la fête, c'est vrai que parfois c'est quand même source de stress. Moi, je le vois même avec ma propre épouse. Alors, elle est en panique parce que elle a vu qu'il restait une miette dans la cuisine. Alors, j'ai beau essayer de la rassurer en lui disant,
mais vous lui avez filé un coup de main quand même.
Ah. Évidemment.
Ah. D'accord. Mais bah, c'est vrai que partager le stress, on partage tout dans le couple.
Ouais, le stress, il faut nettoyer. Ah bah oui,
quand c'est du bon stress, oui, mais là c'est du stress. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu source de stress, mais bon, le but c'est évidemment de le faire ensemble et de voir surtout le bon côté des choses, bien sûr.
Mais je pense quand même que c'est. Alors je vais me faire passer pour un macho, tant pis, c'est pas la première fois, mais que je me ferai critiquer. Mais je crois quand même que Pessard, c'est pour beaucoup une histoire de femme. Elles ont pris ça sur elles.
Je peux me permettre de vous corriger, Bernard, si vous voulez. Hein. Attention, ça vous en... sans vouloir vous manquer de respect. L'abdicatramètre.
Mais je vais le faire quand même.
La recherche ultime.
Je ne vais pas vous manquer de respect, mais je vais le faire.
Non. L'abdicatramètre, la recherche du Khamet, la vraie recherche obligatoire, nécessaire, efficace du Khamet, elle est assurée par qui en général ?
Adonia Arav, le ménage, il a été fait à 90%.
Eh bien, c'est pour ça que normalement, on devrait prendre conscience que l'abdicatramètre ne commence pas le soir. Elle a commencé quelques jours avant et de la même façon qu'à la fin, eh bien, c'est monsieur qui va prendre sa bougie et qui va chercher. Eh bien, il faudrait qu'il s'y mette avant et qu'il aide et qu'il fasse partie et que lorsqu'il est en train de chercher le Khamet à la fin, ce ne soit pas qu'un inspecteur des travaux finis qui vient chercher le Khamet et qui, le soir du Khamet, récupère sa femme dans un état compliqué au soir du CEDER.
Et elle dort pendant le CEDER, la pauvre, parce que tout le monde lui a tout mis sur les épaules.
Et Bernard, je voudrais quand même apporter une conclusion très importante. Moi, ça fait 25 ans que je vous connais et je peux certifier et assurer que vous êtes tous sauf macho.
Oh, merci, c'est sympa. Merci Greg, toda ravalecha. Je t'appelle après l'émission, merci.
Avec plaisir, à bientôt. Bonsoir,
merci,
bonne fête.
Bonne fête.
Bonsoir. Au revoir.
Carole est en ligne avec nous. Carole, alors votre question.
Bonsoir.
Bonsoir. Bah, toi, tu m'as chaud. J'y dis même pas bonjour. Alors, votre question à Rav David.
Alors, ma question, peut-être que c'est une question bateau, mais c'est une question qui revient souvent dans les familles, tous les ans. Et comme les discussions, elles sont toujours les mêmes, j'aimerais qu'on reprécise. À la sortie de Pessard, on habite en France, donc ça sort très très tard. Et très souvent, il y a ce qu'on appellerait en yiddish des Shabbat goy, mais il y a toujours des dames à la maison, il y a des dames qui aident, des nounous, etc. Il arrive souvent qu'on veuille leur demander des services, notamment de ranger la vaisselle pour que la fin de Pessard soit plus facile. Et deuxièmement, d'aller acheter du pain qu'elle laisserait dehors et comme ça, il y aurait du pain pour couper Pessard. Je voulais savoir à quelle mesure c'est interdit et pour ma part je le fais pas parce que j'ai personne chez moi, mais je l'ai tellement entendu autour de moi dans ma famille que j'aimerais vraiment savoir à quel point c'est interdit, ou est-ce qu'il y a une façon de le faire, je ne sais pas. Voilà, c'était ma question.
Alors la question est supérieure à ce qu'elle pourrait laisser paraître, excusez-moi, hein, je parle sous votre contrôle Carole et sous le contrôle du Rav. C'est-à-dire, si ça reprend un peu l'idée de Chaim tout à l'heure, le pain qu'amène la dame, elle n'est pas moi. Elle amène le pain. Alors si je comprends que ça doit... je comprends la question, j'y crois que j'ai compris la question. Rav David.
Alors, il y a deux questions en une, et on va y aller progressivement. À la première question, est-ce que je peux envoyer quelqu'un pendant Yom Tov, aller faire des courses, aller faire des choses, ou ranger de la vaisselle, ou faire quoi que ce soit que moi, je n'ai pas le droit de faire. Donc, en mandatant quelqu'un qui n'a pas l'obligation de respecter Yom Tov, est-ce que j'ai le droit, moi, de lui donner l'ordre? La réponse va être la même que pour Shabbat, en fait, en réalité. Tout ce qu'un juif n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit de demander à un non-juif de le faire. Donc, comme ça, au moins, c'est clair, même par rapport à Shabbat, je ne peux pas... Moi, je n'ai pas le droit de ranger la vaisselle parce qu'on est encore pendant Yom Tov et que je n'ai pas le droit de préparer le lendemain. Eh bien, je n'ai pas le droit de demander à un non-juif qui serait chez moi de me faire cette chose-là. Maintenant, par rapport au fait de lui demander de m'acheter du Khametz, là, j'ai un deuxième problème. C'est que lorsqu'il va acheter du Khametz, il va l'acheter pour moi. Et à ce moment-là, du coup, je serai possesseur de Hametz alors que la fête n'est pas encore terminée. Donc là, il y aurait des solutions qui consisteraient à lui dire, voilà, tu vas l'acheter, il va rester à toi, et tu ne vas me l'amener qu'à la sortie de la fête. Mais ça demande à être formulé assez bien, et donc il faut une validation rabbinique pour pouvoir faire cette formulation de la meilleure façon qui soit. Ça demande aussi à ce que le Hametz ne soit pas stocké chez vous avant la fin de Pessah, mais stocké toujours chez le non-juif et que vous ne le récupériez qu'après. Donc c'est un peu difficile à mettre en place. Il y a peut-être, pas peut-être, il y a des restaurants qui ont recours à cette méthode lorsqu'ils veulent ouvrir juste après Pessah. Mais pour un particulier, c'est des conditions qu'il faut bien, on va dire, bien tirer au clair avec une autorité rabbinique et qui sont difficiles à mettre en œuvre. Maintenant, acheter après la fête vous-même, vous pouvez. Mais demander à quelqu'un d'acheter pour vous, c'est plus délicat.
Carole.
D'accord. Juste précision, si la personne justement fonctionne comme un Shabbos Goy, qu'elle est prévenue avant, qu'elle est justement comme vous dites, imaginons qu'on lui dise achète ton pain et
tu m'en donneras après.
Voilà.
Ouais. Okay.
Je vous ai dit, la formulation doit être validée rabbiniquement parce que si elle a acheté son pain et qu'après vous venez que vous le lui achetez. Là, il n'y a pas de problème à l'achi si c'est vraiment bien fait, que c'est resté chez elle, que c'était vraiment à elle, qu'elle comptait là-dessus. C'est-à-dire que si vous ne lui aviez pas acheté, elle ne serait pas venue voir, mais j'ai ton pain, pourquoi tu n'es pas venu le récupérer? Donc si on est dans cet esprit-là, oui, c'est faisable. Si en revanche, on est dans un esprit où c'est du pain qui vous appartient déjà, parce que qui plus est, vous lui avez donné l'argent avant et qu'elle n'a été que votre envoyé pour acheter pour vous, là, c'est déjà plus problématique.
D'accord.
Ça marche.
Okay, j'ai compris.
Je termine juste que la notion de Goy Shel Shabbat, c'est une notion qui est un peu difficile à mettre en œuvre pour les Sfaradim et qui souffre de quelques difficultés halakhiques, qui est très répandue en Eretz Israël, mais qui souffre et qui demande à être analysée en détail pour pouvoir être utilisée convenablement avec la halakha, surtout selon les avis des Sfaradim.
Ok, magnifique. Carole, merci. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions sur la bronchite parce que j'ai cru comprendre que. Non? Non. Est-ce qu'on peut dire la Haggadah avec la bronchite, non?
Et on peut dire des fois,
on doit.
Vous pouvez prendre Carole, des comprimés qui mettent
Ravel
ben
Daman.
Pessah, hein.
Merci, c'est toujours très clair quand on vous parle, donc c'est magnifique. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Bernard.